Et comme tous les jeudis soirs, il est temps de retrouver Yaël Lifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonjour Yaël.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Yaël?
On attend d'être délivré mardi prochain. Je ne sais pas quels seront les résultats des élections, mais la campagne est vraiment très pénible. Donc, concentrons-nous sur les vrais problèmes du pays, je dirais.
Alors d'ailleurs, à ce sujet, on aura le plaisir de vous retrouver le soir des élections pour commenter les premières estimations. Alors Yael, nous avons choisi trois sujets cette semaine. On va commencer avec un sujet qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Il s'agit de la nouvelle banque en ligne qui va bientôt être disponible pour nous tous, hein. Est-ce qu'elle va faire une révolution, cette banque en ligne, comme on a pu le voir dans le secteur de la téléphonie mobile?
Eh bien, il faut l'espérer, Emmanuel. En tout cas, c'est une vraie bonne nouvelle et puis une nouvelle intéressante parce que celui qui est le créateur de cette banque n'est autre que le professeur Amnon Shashua, donc le fondateur de Mobileye, un génial entrepreneur israélien, à la fois un scientifique très très fort en intelligence artificielle et en technologie, et à la fois un homme d'affaires avec beaucoup de bon sens, qui d'ailleurs, vous vous souvenez, pendant les premiers mois du corona, avait tenté de modéliser lui aussi la crise, mais n'a pas plus été écouté que le reste. Et donc, en fait, il avait annoncé, il y a déjà pratiquement 2 ans, ce projet de banque numérique, qui est donc la première banque depuis 40 ans en Israël à avoir obtenu une nouvelle licence. C'est-à-dire que la Banque d'Israël est très conservatrice, n'autorise pas à des banques de s'ouvrir comme ça. Et donc, c'est la première fois depuis 40 ans qu'on ouvrait une banque, un peu comme l'hôpital d'Assouta, qui était le premier nouvel hôpital en Israël depuis 40 ans. Donc, on est dans une nouvelle ère, on va dire. Et donc, Amnon Shashua, sa banque a pour caractéristique d'être entièrement numérique, donc une banque qui n'aura ni agence, ni bureau, pour ainsi dire, avec un tout petit nombre de salariés. Et un article très intéressant paru cette semaine dans Le Marqueur a comparé effectivement la révolution de cette banque numérique avec l'entrée remarquable et remarquée qu'avait fait Golan Telecom dans le secteur de la téléphonie en Israël, qui a vraiment mis une déflagration incroyable qui a fait que les prix des abonnements aujourd'hui sont, je ne sais pas, un dixième, un centième de ce qui pouvait être il y a encore une dizaine d'années. Et donc, il explique également, cet article, que les conditions de possibilité de cette banque numérique ont été créées quand même au cours des années par la Banque d'Israël et par une série de réformes. Et je rappelle que Moshe Kahlon, bon, qui maintenant son parti a même disparu et il n'est plus dans la politique, avait fixé comme son grand chantier le chantier de la banque après donc qu'il avait été élu sur la foi de cette réussite extraordinaire de la téléphonie mobile. Et pourtant, il n'a pas du tout réussi à faire accoucher, j'allais dire, à faire se créer ce projet du temps de sa mandature. Et vous voyez que les fruits du travail d'un homme politique sont très souvent recueillis par son successeur. Et c'est le cas en l'occurrence. Donc cette banque, on en a ouvert un pilote hier. Un pilote, ça veut dire qu'il y a, je crois, quelques centaines d'utilisateurs qui en utilisent une sorte de version bêta, si l'on veut. Et ces utilisateurs vont permettre d'affiner le concept. Et donc, cette banque bénéficie donc de toutes les réformes qui ont été faites dans les dernières années. En particulier, donc, il y a eu d'abord une réforme en 2016, la loi des données de crédit. Vous savez que maintenant, les données de crédit sont publiques. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission, Emmanuel, sur ce sujet, parce que tout le monde, tous les consommateurs ont accès à leurs données de crédit et ils peuvent les améliorer ou les changer pour éviter qu'on ne leur accorde pas de prêt ou pour éviter qu'on leur donne un prêt avec un taux trop élevé. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Donc ça, on en discutera une fois. Donc il y a
Avec
déjà cette
plaisir.
première loi. Il y a également un grand système d'informatisation de la totalité des données bancaires afin que les banques puissent échanger entre elles des données qui a été mise en place dans les derniers mois. Et enfin, il y a la réforme qu'on appelle la réforme de la banque ouverte qui va prendre effet au mois de septembre et qui permettra à toutes les sociétés de fintech, donc des sociétés qui proposent des services financiers avancés, d'avoir les données des consommateurs, des clients, des banques et de pouvoir leur proposer des services adaptés. Un petit peu où on aura un peu l'équivalent du Camazé, des services bancaires et des services de technologie financière. Donc déjà, c'est une grande réforme. Bon, je ne parle pas des réformes pour les consommateurs, celles par exemple du paiement sans contact, mais bon, on voit quand même, vous voyez quelque chose qui est en train de bouger sur le marché de la banque. Et quelle va être la, entre guillemets, bonne nouvelle que va nous apporter cette banque numérique? Eh bien, effectivement, comme le fait remarquer l'article, ce n'est pas le fait d'être numérique, parce qu'aujourd'hui, quasiment trois quarts des clients font déjà la plus grande partie de leurs opérations via l'application, via le site internet de la banque. Et de toute façon, depuis le début du corona, Emmanuel, les banques ne reçoivent que sur rendez-vous.
Tout à fait.
Et d'après ce que j'ai entendu à la radio il y a deux jours, elles ont l'intention de continuer. Hein. On ne pourra plus aller à la banque librement.
Fait.
Il faudra toujours prendre rendez-vous. Ça
et
permet
on,
aux
et
banques.
On a vu beaucoup d'agences fermées d'ailleurs depuis le début du corona.
Absolument, absolument. Et donc, le grand avantage de cette banque qui s'appelle la nouvelle banque numérique, elle n'a pas encore de nom, apparemment, ils doivent travailler sur le branding, c'est que donc, elle va pouvoir proposer des coûts très, très inférieurs. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, elle n'a pas besoin de maintenir un parc immobilier de centaines ou de milliers d'agences avec des immenses bureaux dans des tours à Tel Aviv. Elle a en tout et pour tout 200 salariés, alors que, par exemple, pour vous donner une idée, la Banque Hapoalim a 9000 salariés, Emmanuel. Donc, vous imaginez la différence.
Bien sûr.
Ensuite, elle est, du point de vue technologique, du point de vue de l'information, elle est d'une nouvelle génération par rapport aux banques traditionnelles qui ont encore des serveurs dédiés, du gros personnel informatique afin de maintenir leurs données. Non, la banque d'Amnon Shashua, elle a un équipement informatique hyper moderne et elle est hébergée entièrement sur un cloud, sur un nuage. C'est la première fois pour une banque que c'est le cas également. Et enfin, évidemment, elle n'est pas liée par des accords syndicaux qui garantissent au personnel des banques, vous le savez, des salaires faramineux avec des conditions qui sont à peu près incroyables, qui font que les banques font partie des entreprises les plus désirées pour y travailler pour les Israéliens après la Chevrat HaHashmal, bien entendu. Et donc, évidemment, Amnon Shashua aura un personnel qui sera très différent du personnel pléthorique et pas forcément hyper efficace des banques d'aujourd'hui. Donc, elle pourra proposer, évidemment, des commissions très inférieures. L'article a examiné, par exemple, la liste des commissions qu'on paye à la banque Leumi, puisque tout le monde pense, il explique, tout le monde pense qu'on paye 25 shekels par mois et c'est tout. Évidemment, ce n'est pas vrai. La plus grande partie des commissions bancaires sont cachées. Le catalogue des commissions de la banque Leumi fait 59 pages, Emmanuel, pour vous donner une idée. Et donc, il dit qu'il y a de la marge, que cette banque numérique, elle pourra apporter une bonne nouvelle aux clients en termes de coûts, en termes de gestion. Et Amnon Shashua nous propose également une vision nouvelle de la banque, à savoir que lui, il nous explique que son but, ce n'est pas d'arnaquer les clients, de leur faire payer des commissions dès qu'ils sont un peu à découvert, de leur dire « Ah ça, vous n'aviez pas compris, ça coûte tant ». Pas du tout. Selon lui, il veut considérer l'activité financière de ses clients comme un tout. Ça veut dire que sa banque s'autorisera à proposer, par exemple, un meilleur plan retraite à des clients, lui proposera de vérifier pour lui, vous savez, ce qu'on a fait, nous, avec le Har Habitoire, il n'y a pas longtemps, vérifier si on a des doublons en termes d'assurance santé. Elle lui proposera d'aider ses clients de carte de crédit. Elle lui proposera, en fait, un assainissement et une amélioration de l'ensemble de la gestion de son argent. Donc, on voit là une différence, pas seulement dans le service qui va être apporté, mais bien évidemment d'une génération nouvelle, celle de la high-tech, qui vient regarder la banque, non pas comme un endroit où on met son argent, mais comme une ressource dans la vie financière du client qui lui permettra d'améliorer énormément d'aspects, bien au-delà de l'épargne, de la machkenta ou des services traditionnels qui sont proposés.
Alors,
donc, c'est très, très intéressant.
C'est très intéressant, effectivement. C'est une vraie révolution. J'ai quand même envie de vous poser la question, à savoir que la cible au niveau des utilisateurs me semble bien jeune, parce qu'il y a toute une catégorie de personnes au-delà d'un certain âge qui auront beaucoup de mal à utiliser les services d'une banque en ligne avec une technologie aussi, aussi développée, avec peut-être la peur de ne pas avoir d'interlocuteur, de ne pas comprendre comment utiliser cette banque en ligne. Et puis la seconde réflexion que j'aimerais vous faire, c'est les banques que nous connaissons, les banques traditionnelles, vont-elles s'aligner maintenant? Il va y avoir donc une vraie concurrence. Elles vont-elles s'aligner au niveau du montant de leur commission sur cette nouvelle banque en ligne, comme on a pu le voir?
Effectivement, Emmanuel, c'est une véritable révolution et donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, il y aura un très gros travail de pédagogie, un très gros travail à faire sur l'interface. Je pense que malgré tout, il y a très peu de personnes en Israël aujourd'hui qui n'ont pas de téléphone portable et qui ne réalisent pas des opérations avec leur téléphone portable, ne serait-ce que parce qu'il y a des services qui ne sont tout simplement pas disponibles autrement. Mais je suis d'accord, il faudra qu'Amnon Shashua, avec toute son inventivité, avec toute sa maîtrise de l'intelligence artificielle, des logiciels, des bots réussissent à mettre en place une interface qui puisse être suffisamment, comme on dit, user-friendly, c'est-à-dire amicale pour des personnes qui ne sont pas, enclines à se servir de ces services-là. Deuxième question, effectivement, ils comptent se tourner vers des publics assez spécifiques. Par exemple, la crypto-communauté, la communauté, ça veut dire que lui, il pourra permettre des transactions en Bitcoin, qui aujourd'hui ne sont pas permises par beaucoup de banques. Il compte aussi se tourner vers les travailleurs étrangers qui n'ont pas toujours accès à des comptes en banque parce qu'ils n'ont pas la nationalité israélienne. Donc, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle de la segmentation. Quant à l'alignement des banques, eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je pense que la banque Apoalim, qui possède 75% du marché bancaire, va probablement quand même devoir regarder un petit peu ce qui se passe chez elle. Mais sa taille est telle que même s'il y a une évolution, elle sera beaucoup plus lente que celle de la téléphonie, où on a vu vraiment en l'espace de moins de 2 ans, même, je ne sais pas, d'un an, les prix complètement s'effondrer. Je pense qu'il y aura probablement, vous savez, comme l'a fait Leumi avec la banque Pepper, une banque numérique plus petite, moins chère, avec moins de services qui sera proposé, pendant que les banques continuent leur plan d'assainissement, leur vente d'agence et leur changement de modèle économique. Je sais que déjà, à la banque Leumi, Rakefet Aminoar, qui est donc l'ancienne directrice de la banque Leumi, avait déjà mis la banque sur le chemin du tout numérique et probablement c'est ça qu'on va voir. Mais moi, en tout cas, j'ai l'intention de passer à la banque numérique nouvelle dès qu'elle s'ouvrira, parce que si on a de la technologie, de l'intelligence et l'inventivité de quelqu'un comme Amnon Shahjoua dans une institution bancaire, pour moi, je pense que c'est une assez grande garantie que le service sera très qualitatif.
Alors, j'imagine que nos auditeurs vous poseront encore beaucoup de questions sur cette prochaine banque numérique, comment l'utiliser, quels sont les services, quels sont les avantages. Un sujet dont on aura l'occasion de reparler, Yaël, ensemble. Et puis, peut-être également l'occasion, comme vous nous en avez à peine parlé, d'évoquer le sujet des crypto-monnaies qui deviennent aujourd'hui très importantes et d'expliquer à nos auditeurs comment s'en servir, est-ce qu'on doit s'en servir. Si vous êtes d'accord, on en parlera une prochaine fois.
Absolument.
Alors, le second sujet, c'est un sujet dont on avait déjà parlé, mais on va revenir un petit peu dessus. Il s'agit des impôts sur les grosses fortunes. Alors, on apprend que le fisc israélien a démarré une collaboration avec les autorités fiscales suisses. Alors, Suisse, on sait, la Suisse a toujours, c'est un mythe, hein, la Suisse, la cachette des milliardaires, le coffre-fort des milliardaires en Suisse, et ben c'est aussi une réalité. Et Israël, donc, collabore avec le fisc suisse. Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces grandes fortunes israéliennes ou juives en général ?
Eh bien, écoutez, en fait, on se rend compte que, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, le déficit budgétaire de l'État d'Israël est aujourd'hui de 160 milliards de shekels. Et vous savez que dans ces cas-là, même si l'État ne le dit pas et même s'il tient des discours lénifiants envers ses citoyens, il va chercher par tous les moyens à augmenter ses recettes. Alors, évidemment, comme on est dans une situation où il y a des centaines de milliers de chômeurs et où de nombreux foyers israéliens sont très fragilisés par la crise, eh bien, ce sont souvent à l'occasion de crises très graves que l'on va tout d'un coup se souvenir qu'il y a des gens vraiment très, 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 très riches dans le pays et que, bizarrement, ils ne payent pas d'impôts. Et donc, on va aller leur faire la chasse. On a exactement la même chose dans tous les pays du monde, y compris la France. On va dire que le fisc français est peut-être un petit peu plus costaud dans ce qui est d'aller chasser les personnes qui sont un petit peu récalcitrantes. Mais en Israël, ce qui m'a intéressé, c'est que en tant que Ola Hadasha de France et en tant que personne qui a été biberonnée comme tous les Olim de France avec des mythes sionistes extrêmement héroïques basés sur la solidarité, la philanthropie, la générosité, le don de soi, eh bien finalement, on développe une sorte d'angle mort sur ces sujets-là qu'on n'a quand même aucun problème à développer quand il s'agit des États-Unis ou de la France. Et là, tout d'un coup, on a une difficulté à se dire que des grandes fortunes israéliennes qui ont créé des grandes sociétés dont on est très fier, hein, il n'y a pas de problème, eh bien, elles n'ont pas du tout envie de payer des impôts et elles sont prêtes à tout pour faire, comme on l'appelle, de l'optimisation fiscale. Et c'est un sujet un peu tabou. Ça paraît pas très bien parce qu'Israël, c'est quand même le pays qu'on a construit ensemble tous tant qu'on est à des pionniers et on est tous très prisonniers de cette thématique de la petite laiterie de Tnouva et des fermiers, des paysans et de l'homme juif qui travaille la terre. Sauf que ça, c'est quand même très loin de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des holdings internationales, des grands groupes qui sont hébergés dans des paradis fiscaux. Et croyez-moi, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent en Israël, en particulier sous le gouvernement du Mapai et puis ensuite sous le Likoud, n'ont pas du tout envie d'en faire profiter l'État. Et donc, le fisc israélien, sous la direction de Eran Yaakov, donc qui dirige le Réchout Amissim, l'autorité fiscale, s'est tourné vers les autorités suisses avec une liste longue comme le bras d'hommes d'affaires, de sociétés, bon, 120 Israéliens, une longue série d'hommes d'affaires très connus et environ 150 sociétés qui sont liées à ces personnes ou aux membres de leur famille. D'accord. Et donc, l'autorité, le fisc suisse qui s'appelle l'AFC, possède ces informations parce que ces personnes soit sont résidents suisses également, soit ont hébergé une partie de leur société en Suisse, soit leur argent est hébergé en Suisse. Et donc, au nom de la convention fiscale qui existe entre Israël et la Suisse, cette démarche groupée, c'est ça qui a fait un petit peu la une. Généralement, j'imagine qu'il y a des demandes au cas par cas qui sont faites, mais là, ça s'est fait un peu en bloc. Et donc, on sent bien que l'État d'Israël a envie de ramasser un petit peu, de récupérer un petit peu d'argent qui ne lui a pas été donné. Et donc, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était que le titre de l'article, toujours dans le Calcaliste, qui est très actif sur ces sujets-là, était de nouveau Michael Strauss, dont nous avons longuement parlé il y a deux semaines, qui, donc, on avait bien expliqué qu'il avait laissé 3 milliards de shekels à sa famille, qu'il n'y avait pas d'impôt sur les successions. Alors non, on apprend que ce n'est pas du tout 3 milliards de shekels, mais que la fortune de la famille Strauss, elle, est évaluée à plutôt 5,97 milliards de shekels, donc 6 milliards de shekels, d'accord ? Et qu'il y a une partie qui appartient à la famille de Raya, qui est donc la sœur de Michael, et le reste appartient aux autres héritiers. Et on découvre qu'il y avait des sociétés qui étaient mentionnées dans le testament de Michael Strauss, mais dont on ne sait pas du tout ni la valeur ni rien, pour la bonne raison qu'elles sont enregistrées dans un paradis fiscal, les îles Vierges britanniques, dont une société dont il est indiqué dans sa dénomination sociale que c'est une société d'investissement. Et donc j'imagine que le fisc israélien a dû commencer des investigations, s'imaginer qu'il y a là quand même de l'argent, qui est géré par des personnes qui habitent en Israël, qui font leur activité en Israël, qui sont résidents fiscaux en Israël et que donc, ils devraient être assujettis à l'impôt. Donc, ça, c'est intéressant. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ils se sont tournés vers le fisc. On a aussi, je vais juste donner un autre exemple parce qu'il y a 120 personnes, mais évidemment, il y a la société de Benny Steinmetz. Alors, Benny Steinmetz, on a entendu parler de lui ces derniers temps parce qu'il a été condamné récemment en Suisse à 5 ans de prison, si je ne me trompe pas, pour avoir donné des pots de vin à la femme du président de Guinée pour obtenir la concession exclusive de mine de fer, d'une mine de fer fabuleuse. Lors du procès, aucun témoin ne s'est présenté, donc il a quand même été condamné, mais il a fait appel. Benny Steinmetz, c'est un personnage qui a également la nationalité française, donc il a été également jugé, enfin la France était également partie, faisait partie des plaignants dans cette, pas des plaignants, pardon, des accusateurs dans cette affaire. Et on découvre que Benny Steinmetz, qui est donc aussi israélien, a également de nombreux biens en Israël, séjourne régulièrement en Israël. Et alors lui, il a toute une flopée de sociétés qui sont immatriculées aux îles Maurice ou aux îles Vierges
société
également.
Offshore.
Exactement, dont une holding privée qui est également enregistrée dans le Liechtenstein et qui est l'actionnaire principal de ce fameux groupe minier. Parce qu'il faut quand même savoir que Steinmetz a affirmé pendant 20 ans qu'il était simplement salarié ou consultant d'une société fabuleuse qui fait des milliards de chiffres d'affaires et qu'il n'a jamais payé d'impôts puisqu'il n'était qu'un pauvre salarié. Voilà, donc apparemment, le fisc s'intéresse également à ses biens. Il possède aussi de nombreuses maisons en Israël, une villa estimée à 160 millions de shekels, un avion privé, un yacht, de l'immobilier à Netanya, etc., etc. Et donc, les autorités fiscales israéliennes ont également demandé des précisions aux Suisses, affaire à suivre, mais qui vient montrer à quel point, en période de crise économique grave, l'État ne recule plus devant rien et n'a pas peur de s'attaquer à des personnes qui, généralement, sont influentes, y compris politiquement, Emmanuel. Et c'est souvent ça qui fait reculer les hommes politiques, enfin les politiques israéliens, quand il s'agit de s'attaquer à des personnes qui sont souvent leurs donateurs et parfois même des gros employeurs en Israël.
Bon, c'est plutôt positif, Yael, que les nouvelles que vous nous donnez aujourd'hui. Et on va terminer justement sur une bonne nouvelle également, puisqu'il y a un sujet qui nous tient à cœur. Il s'agit du ministère de l'Éducation. Le rapport du contrôleur de l'État montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Oui, alors c'est pour ça que je me permets de mitiger un petit peu votre remarque, Emmanuel. Non, ce n'est pas très, très positif malgré tout,
Non, ce qui est
puisque…
positif, c'est qu'il y a un rapport qui nous dise qu'il y a des choses à faire et à changer. C'est la
Ça, c'est
constatation qui est
juste.
positive.
C'est juste. Et il faut reconnaître que le contrôleur de l'État, Netanyahu Engelmann, qui a été très fortement critiqué lorsqu'il a été élu il y a 2 ans, parce qu'il avait dit qu'il se concentrerait sur des critiques positives et qu'il y avait un contraste très fort avec l'ancien contrôleur Yosef Shapira, qui était, on va dire, très militant. Au début, on n'a pas beaucoup entendu. Et maintenant, le bureau du contrôleur de l'État prend un petit peu d'essor. Et il a sorti une série de rapports vraiment très intéressants qui sont liés à la crise du corona et à la préparation d'Israël aux défis futurs du marché du travail et à l'éducation. Donc, c'est un rapport court, hein, c'est un rapport intermédiaire, parce qu'en temps de corona, il n'a pas pu faire le même travail
Bien
d'enquête
sûr.
qu'il le fait habituellement. Mais donc, il y a un rapport cinglant dont on parlera la semaine prochaine sur les formations professionnelles, hein, qui est un sujet dont vous savez qu'il m'intéresse
Oui, tout à
énormément.
fait.
Mais il parle là de la préparation d'Israël au XXIe siècle dans le domaine de l'éducation. Et là, une critique très, 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 très forte du ministère de l'Éducation en tant qu'institution. Hein, on ne critique pas tellement le système éducatif en tant que tel, il y a d'autres choses à dire dessus, mais là, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Effectivement, pour avoir travaillé pendant 8 mois à la commission de l'éducation de la Knesset et avoir été en contact quotidien avec des interlocuteurs
Tout
du
à fait,
ministère, je peux vous dire…
vous nous l'avez souvent fait remarquer, absolument.
Ah, mais je peux… Quel gâchis de talent, vous ne pouvez pas vous imaginer. Des gens très intelligents, pleins de bonne volonté, qui se trouvent bloqués par une bureaucratie pléthorique, par des multiplications de commissions, par des dissensions permanentes au sein du ministère, par des ministres qui changent tous les 2 ans, avec chacun son grand projet sur lequel il veut mener le pays, qui stoppe les projets précédents, des empilements comme un millefeuille de rapports et de projets les uns sur les autres. Et donc, Netanyahu Engelmann n'épargne pas ses coups et il fait savoir que le ministère de l'Éducation est coincé au siècle dernier, qu'il n'a pas su s'adapter au XXIe siècle. Il nous explique que
C'est
les
quand même
programmes scolaires…
surprenant quand même hein, pour ne
Ah, mais c'est
pour la
terrible, Emmanuel,
Startup
hein, avec…
Nation.
Absolument. Sachez qu'en Israël, la moitié des programmes scolaires des collèges et de lycées a été mise en place il y a plus de 10 ans et pas remis à jour depuis, Emmanuel. D'accord? Pourquoi
Incroyable.
cette mise à jour des programmes n'avance pas? Parce qu'il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de consensus à l'intérieur du bureau, du ministère. L'un veut faire quelque chose, l'autre veut faire autre chose. Alors le ministère a fait une liste de compétences qu'il serait utile pour les élèves d'acquérir en vue du 21e siècle dans le cadre d'un programme au titre pompeux de M21. Et il n'a pas listé moins de 57 compétences différentes, Emmanuel. Et il a été incapable d'en favoriser aucune. Aucun programme n'a été mis en place. On s'est dit, bon, y en a 57, on prend les 5 premières. Non, parce qu'il n'y a pas eu de classement, parce qu'il y en a qui poussent quelque chose, d'autres qui poussent d'autres choses. Pendant ce temps-là, le niveau des élèves israéliens continue à dégringoler. Donc, on avait imaginé qu'il fallait adapter les infrastructures physiques des classes. Vous savez, les classes en Israël sont très vieillottes au XXIe siècle. Le ministère a accordé un demi-milliard de shekels de budget afin d'adapter le mobilier des classes, d'avoir, par exemple, je ne sais pas moi, des chaises à roulettes pour pouvoir refaire des petits groupes assez rapidement, etc. Seuls 25% des écoles secondaires des villes riches, hein, ont adopté ce plan et seulement 16% dans les villes pauvres, hein, qui en plus en ont encore plus besoin. Il y a trop d'examens de bac en Israël. Vous le savez, chaque élève israélien a environ entre 10 et 12 épreuves du baccalauréat. Le baccalauréat y coûte 20 millions de shekels. On jette 1 million de fascicules qui sont imprimés au cas où et qui ne sont pas utilisés. D'accord? Donc voilà, on imagine que quand même, on est toujours dans la Startup Nation. Donc le bac occupe tout le temps des lycées et les élèves, du coup, ne sont pas formés à toutes les compétences de l'avenir. Donc je ne parle pas, on ne parle pas des niveaux, hein, là pour l'instant, le niveau d'anglais, le niveau de mathématiques, etc., qui ne suffit pas. Mais à chaque fois qu'on a essayé de mettre en place un programme, chaque ministre s'est intéressé à quelque chose de différent. Alors Shai Piron, qui a été ministre de 2014 à 2016, lui, c'était la Lemida Mashmaotit, c'est-à-dire l'enseignement significatif, donc des socles. D'accord, on a mis en place le programme. Jamais appliqué. Ensuite, on a eu Naftali Bennett qui est arrivé en fanfare, qui nous a annoncé qu'il veut qu'il y ait un maximum d'élèves qui présentent 5 unités de mathématiques au baccalauréat. On a lancé des programmes. Effectivement, il y a eu une certaine augmentation, mais depuis, tout a été abandonné et puis on tire les plus forts vers le haut et tous les autres, pendant ce temps-là, ont dégringolé. On essaye de savoir quelles sont les choses importantes pour un élève pour demain. On se rend compte, selon les résultats de l'étude PISA de 2018, que les élèves israéliens ne savent qu'annoncer et répéter. Que ce que l'étude PISA teste, c'est la capacité à s'adapter à des situations, la capacité à s'adapter au monde du travail. Nul. Les enfants israéliens ne sont pas formés dans les compétences qui étaient, je ne sais pas moi, la pensée critique, comment dire,
L'analyse, la
créativité,
créativité.
voilà, l'analyse, toutes
Mais
sortes
ça
de
voudrait
compétences qui
dire,
sont.
ça voudrait dire également de former les enseignants à ce type d'éducation, parce que ça vient aussi peut-être des enseignants.
Ah, mais évidemment. Absolument. Les enseignants ne sont pas formés. On ne met pas suffisamment d'argent. Bon, après, les enseignants, c'est encore un autre problème en Israël à cause de la puissance du syndicat enseignant et de Yaffa Ben David, qui est capable à elle toute seule de bloquer toute mesure qui ne trouve pas grâce à ses yeux. Mais on se rend quand même compte que ce ministère est un, ben, je ne reprends pas ces mots d'habitude, mais c'est un mammouth, c'est un dinosaure, qu'il faut absolument donner plus d'autonomie aux directeurs d'école. Ça, on le dit depuis toujours, sur le terrain, avec une population aussi contrastée que la population israélienne, Emmanuel.
Bien
On
sûr,
n'est
bien
pas en
sûr,
France
bien
ici.
sûr.
On a le secteur arabe, le secteur haredi, on a le secteur des grandes villes
On
et
a
le
les
secteur
nouveaux
des
immigrants.
kibboutz et on a la périphérie et on a les olim et on a les Éthiopiens. Il faut adapter les contenus en se mettant d'accord, effectivement, sur un socle de compétences et de connaissances que tout élève doit posséder. On en est très, très loin. Il y a quelqu'un là-haut, là-bas, Rehov Hanevim, qui dirige l'État, qui dirige toutes les écoles du pays depuis un bureau, sans comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est quelque chose de criant, que tous les acteurs du terrain le disent, aussi bien les parents que les professeurs eux-mêmes, que les inspecteurs, que, évidemment, les élèves, et on se rend compte qu'il faut absolument une réforme en profondeur. Le problème, Emmanuel, c'est que comme on change de ministre tous les 2 ans et qu'il est occupé à faire les titres de l'actualité et à ce qu'on le voit à la télé au maximum, bah, il n'a pas le temps de s'occuper du vrai travail qui consiste à faire en sorte que nos élèves soient qualifiés et qu'Israël ne s'enfonce pas irrémédiablement dans les classements internationaux. Il est important d'agir. Dernière chose, le contrôleur préconise une mesure qui a déjà été préconisée 50 fois dans les 10 dernières années, la création d'un haut commissariat national à l'éducation qui ne dépendra pas des politiques, avec des experts qui pourront donner des directions, qui pourront donner des pistes
C'est
pour pouvoir faire
essentiel,
évoluer
bien sûr.
l'éducation. Bah oui, la loi est passée en 2014. J'ai même, je vous l'avoue, écrit une nouvelle version de cette loi pour le député Ram Shefa, plus démocratique, avec la participation des parents d'élèves, etc. Évidemment, même chose, la Knesset a été dispersée avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Il est temps qu'il y ait un pilote dans l'avion du ministère de l'Éducation.
Merci beaucoup Yael Ifra pour cette revue de presse passionnante comme toujours. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français. Je vous souhaite Shabbat Shalom Yael.
Shabbat shalom, Emmanuel.
Merci.